I've seen things you people wouldn't believe.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai.
Bonjour, bienvenue sur la Silicon Radio, ici Denis Quentin, Bruet Ferréol. Nous sommes avec Jessica Schlekroon ce soir. Est-ce qu'elle est là ?
Oui, je suis là. Bonjour, Denis Quentin.
Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'émission de la semaine dernière que nos auditeurs n'entendront malheureusement pas ? On a eu quelques problèmes techniques, mais peut-être que là, qu'on va la retourner. C'était sur Sonic le Hérisson.
Alors moi, j'étais déçue qu'on parle pas plus de Mario.
Ah.
Et j'étais déçue aussi qu'on commence... Enfin, en fait, on a pas mal parlé des jeux vidéo. Et on a commencé avec les consoles de jeux qui vont sur télé. Et moi, j'ai commencé sur Amstrad. Et du coup, j'étais un peu frustrée de ça aussi.
Ouais, je ne dirais pas ton âge dans ce cas, parce que tu as presque 50 ans en fait, c'est ça.
C'est ça, ça on ne dirait
malgré
pas comme
voix,
ça.
On ne voit pas, tu es un peu notre Julie d'Europe 1 en fait.
C'est ça, tout à fait.
Et alors, est-ce que tu as vu le film dont on va parler ce soir ?
Alors pareil, c'est dommage parce que je l'ai vu mais il y a longtemps et du coup j'ai peur de ne pas pouvoir rebondir. Quoi. Parce qu'en plus, je sais que c'est un film structurant de ma culture, hein. Je sais que mes parents étaient très fans et que voilà, ça a joué un rôle important.
Moi, il est deuxième dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps.
Ah ouais, quand même.
Le premier étant L'Exorciste.
C'est ce que j'allais
te
demander.
Pour une prochaine fois. Je ne sais pas, il faudrait qu'on invite un prêtre pour en parler.
C'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ?
Pas facile.
Sur France Inter, ils en ont parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'ils interviewaient l'acteur qui faisait L'Exorciste.
Ah bon ?
C'était vachement cool.
Max von Sydow ?
Ouais, il était chambé.
Donc voilà, on est très contents. Après Sonic, on va parler de Blade Runner, on va faire une analyse, on va parler cybernétique, on va parler philosophie, on va parler sexualité, métaphore sexuelle cachée avec Yann Min.
Silicone Radio, le futur prend le micro.
Ah super. L'avenir, c'est-à-dire dans quel domaine ? Le futur en général ? Ouais, bien, positif.
Bah écoutez, je crois que le futur a un grand avenir.
Silicone Radio. Radio.
Los Angeles 2019. Des êtres génétiquement conçus et presque impossibles à distinguer des êtres humains sont appelés réplicants. La puissante Tyrell Corporation fabrique ces réplicants qui, à la suite d'un soulèvement violent, ont vu leur utilisation sur Terre interdite. Depuis, ces réplicants sont exclusivement utilisés pour les travaux dangereux ou subalternes dans les colonies spatiales. Tout réplicant qui défie l'interdiction et retourne sur Terre est pourchassé et retiré par une unité spéciale de la police appelée Blade Runner. L'intrigue se concentre sur un groupe de réplicants rusés et brutaux arrivés sur Terre depuis peu et se cachant à Los Angeles. Le Blade Runner Rick Deckard, à la retraite, accepte à contre-cœur de reprendre l'enquête et la traque. Bonsoir Yann Min.
Bonsoir.
Alors, pourquoi tu as choisi Blade Runner ?
Pourquoi je l'ai choisi ? C'est moi qui ai choisi Blade Runner ?
On va dire que c'est toi qui as choisi Blade Runner.
Bon, alors disons que j'ai choisi Blade Runner parce que c'est de toute façon un de mes films cultes. C'est aussi un film structurant pour moi d'une période. Je me rappelle qu'à une époque, quand j'étais prof aux Arts Déco, je disais ne vous embarquez pas à réaliser Blade Runner. C'est-à-dire qu'au niveau existentiel, tout un tas de jeunes auteurs, de jeunes réalisateurs ont été tellement marqués par ce film qu'ils avaient une envie de devenir Ridley Scott et de pouvoir, je dirais par réponse aux médias, fabriquer un monument aussi énorme que ce film.
Alors Yann Min, tu es artiste multimédia, écrivain de SF cyberpunk, fondateur de NoNaute, un mouvement néo-cyberpunk, et tu es illustrateur, photographe, documentariste, infographiste, réalisateur. Ça fait beaucoup. Qui es-tu vraiment, Yann ?
Alors,
rapidement, qui es-tu ?
Je ne m'attendais pas à dire ce que je suis vraiment, mais on va garder ça secret. Et la façon la plus simple, c'est de dire artiste multimédia. Ça parle à peu près à tout le monde, dans le sens que je ne me limite pas dans mon champ d'activité de création à un seul médium, c'est-à-dire pas seulement à la peinture ou pas seulement au cinéma ou à la vidéo. Je vais toucher à tout. Et en fait, d'ailleurs, je me définis souvent comme no-opportuniste, dans le sens que je ne m'embarque pas dans une quête irréalisable en disant un jour je serai un réalisateur de cinéma. Non, je fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que je m'empare des outils des médias qui sont à portée de main, qui me tombent à portée de main. Et donc si le cinéma me tombe à portée de main, je ferai du cinéma. Jusqu'à maintenant, la vidéo, la télévision, les mondes 3D virtuels me sont passés à portée de main. Et je m'empare de ces outils-là, comme l'écriture, pour construire des cosmogonies virtuelles immatérielles.
Et alors, est-ce que ces outils-là, parce que si tu avais du scotch et des ciseaux, donc tu ferais ça avec scotch,
absolument,
ciseaux, papier.
Absolument, mais papier, crayon,
c'est ça, être un artiste.
Au départ, je dessine. Au départ, je suis plutôt graphiste. Hein. Et si je n'ai plus accès, pour des raisons économiques ou X, à des moyens de production puissants, à des nouveaux SCAF puissants, c'est-à-dire des outils qui permettent de communiquer à une échelle, je dirais, masse médiatique, bah, je reviendrai soit au dessin, soit à l'écriture, qui sont très faciles.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu rapidement ce qu'est la noosphère, ou en tout cas, alors je sais que c'est impossible d'expliquer ça rapidement, mais simplement, il y a les noosphères, les noonautes, les nooscaf. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut transmettre
aux auditeurs ? Tout à fait, tout à fait. Je pense que plutôt que de me définir comme cyberpunk ou comme artiste et en multimédia, j'aime bien me définir comme noonaute, N-O-O, naute, c'est-à-dire un voyageur, un explorateur du noo. C'est-à-dire de la spiritualité, de la noosphère. La noosphère dans le sens évoqué par Teilhard de Chardin et emprunté aussi à Vernadsky, c'est-à-dire une sphère de l'information, une sphère de la spiritualité qui englobe toutes les autres sphères, qui englobe la cybersphère, qui est la sphère de l'information mesurable, hein, c'est-à-dire les bibliothèques, l'Internet, la vidéo, et la biosphère, parce que dans la vision, je dirais, illuminée, métaphysique que propose Teilhard de Chardin, c'est les sphères de l'information et dont la noosphère qui a généré la biosphère. C'est-à-dire le vivant est issu de la sphère de l'information. Mais enfin, ça, on en parlera tout à l'heure plus longuement.
Parce qu'à 19h30, tu reviens sur nos ondes. Après la session Blade Runner, il y aura une session conte de la noosphère.
Voilà, c'est ça.
Donc tu es en résidence pour un mois. Tu as appelé ça c'est le mois de mars, c'est le mois martien.
Voilà, c'est mes explorations martiennes à Silicon Maniac.
Eh bien écoutez, donc rendez-vous pour ceux qui veulent en savoir plus pour devenir eux-mêmes peut-être des noonautes. Rendez-vous à 19h30. En attendant, on va donc explorer Blade Runner avec Yann Min. Et je vous propose de commencer par parler du test de Voight-Kampff.
My future. I don't know. I don't see my future really right now, so...
Silicon Radio, le futur, prends le micro.
Silicon Radio.
Alors, le test de Voight-Kampff, en fait, c'est dans Blade Runner et dans le roman de Philip K. Dick, un test d'empathie pour détecter qui sont les réplicants, c'est-à-dire qui sont les robots qui ont un aspect humanoïde. Donc, pour commencer, en fait, j'aimerais te soumettre au test de Voight-Kampff.
Essayons. J'ai peur d'échouer.
Alors, tu es dans le désert.
Fais attention parce que ça se termine mal hein, pour l'enquêteur.
Ouais, j'espère que tu n'es pas armé. Tu es dans le désert. Tu vois une tortue. Tu t'approches d'elle et tu la retournes sur le dos. Et ensuite, tu la regardes. Tu la regardes mourir. Tu vois qu'elle ne peut pas se retourner, qu'elle agite ses pattes. Et tu fais rien. Et ça ne suffit pas, elle va mourir devant toi et tu la regardes mourir. Je vois que ta pupille ne s'est pas dilatée. J'ai l'impression vraiment que t'es un réplicant, Yann.
Je crois que je vais te parler de ma mère, là.
Vas-y, parle-nous de ta mère. Mais ta mère ou ta créatrice, alors elle fait des robots.
Non, c'est dans le film, justement, c'est la réplique que donne Léon juste avant de tirer sous la table et d'exploser l'interrogateur.
J'ai pas le son sur moi, on passera le son de la scène juste après pour voir le... J'ai survécu au test en tout cas. Mais donc alors c'est quoi ce test d'empathie ?
C'est un texte d'empathie, c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe dans le roman, et c'est intéressant d'ailleurs parce que le film prend à ce niveau-là le contre-pied du roman. Dans le roman, Philip K. Dick est convaincu, et moi-même je suis un petit peu convaincu de la chose, c'est que les machines seront toujours des simulacres. C'est-à-dire que les machines, les intelligences artificielles n'atteindront jamais l'humain, ne surpasseront pas l'humain, et en particulier il va leur manquer... Ce que Kadic propose, il va leur manquer l'empathie. Les machines n'auront pas les capacités d'empathie. Actuellement, on peut remplacer le mot, je dirais, d'empathie par altruisme, la capacité d'altruisme. Parce qu'en fait, quand on explore bien le roman, on s'aperçoit qu'elles ont une capacité d'empathie telle que Kadic l'écrit. Mais par contre, ce qui leur manque, c'est effectivement l'altruisme et la capacité de porter secours à eux-mêmes, d'ailleurs. Ils rentrent en compétition avec eux-mêmes et n'ont pas d'altruisme par rapport à eux-mêmes en tant que réplicants. Et le film prend exactement le schéma inverse, c'est-à-dire que le film, au début, les réplicants ont l'air inhumains, et plus on avance dans le film, plus les réplicants ont des caractères humains, commencent à avoir des dimensions humaines, et en particulier ont de l'empathie. Alors une empathie qui se discute, hein, puisque lorsque, ou de l'altruisme, lorsque Roy Batty sauve Deckard, on peut
donc
se poser
Roy
la question.
Roy Batty, c'est Rutger Hauer, le grand méchant.
C'est ça.
Le héros négatif. Et je voudrais juste apporter une petite précision. Donc Blade Runner, le film de Ridley Scott, est l'adaptation du livre Do Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick, le plus grand écrivain de science-fiction d'après moi, d'après beaucoup de gens de toute façon. C'est un livre qui a été traduit parce que Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? C'était juste une petite précision, j'avais oublié de la faire. Et alors donc, que fait Roy Batty ?
Eh ben, Roy Batty, à la fin de Blade Runner, va sauver Deckard, alors qu'il pourrait le laisser tomber. Donc on pourrait se dire, là c'est une démonstration très claire et d'empathie et d'altruisme de la part de Roy Batty, sauf que le secret du film, hein, qui est connu maintenant, c'est que Deckard est lui-même un réplicant. Donc il fait montre en tout cas d'altruisme et d'empathie à l'égard d'un autre réplicant. Ce qui n'est pas le cas dans le roman. Dans le roman, ils se détruisent, ils se font détruire par Deckard, ils meurent tous parce qu'ils manquent justement d'altruisme. Et alors le test de Voight-Kampff est une sorte de fiction, mais qui est pertinente, hein, c'est-à-dire qu'en mesurant de façon micrométrique les oscillations, alors on est dans la fiction, hein, les oscillations de la pupille, la température du corps et des choses comme ça, on pourrait déceler des anomalies comportementales, c'est-à-dire les humains, les réplicants n'auraient pas les mêmes réactions qu'un humain, en particulier sur l'évocation de choses qui impliquent qu'on va sauver une tortue, hein, cette fameuse réplique de la tortue qui est sous le soleil, les pattes à l'air, et la plupart des humains, d'ailleurs les humains comme les animaux, ont de l'altruisme, c'est-à-dire vont essayer de la sauver. Ce qui est intéressant aussi dans le roman, c'est qu'Adic soulève quand même un problème qui n'est pas évoqué dans le film, c'est qu'il peut y avoir des humains qui peuvent manquer de ces capacités-là et qui pourraient se faire éliminer, recycler, neutraliser par un réplicant.
Mais il y a tout de même le personnage du commissaire. Il y a deux êtres humains. Il y a le commissaire qui est assez inhumain, le DAB, le chef, celui qui commande à Deckard.
Brian.
Et Ryan. Et il y a un autre policier qui, lui, va faire preuve d'empathie et va les épargner à la fin et les laisser partir en déposant ce petit origami sur
la fameuse
licorne.
Ouais.
Mais alors,
gaffe.
Mais donc c'est assez proche de Kadic à ce niveau-là. Et quel est le rapport avec les animaux ? Pourquoi cette obsession sur le monde animal ?
Alors, c'est déjà présent, hein, dans le roman de Kadic, cette relation aux animaux. C'est justement une mesure de l'empathie très très intéressante, c'est-à-dire que la capacité de se projeter dans des humains, dans des machines et aussi dans les animaux. Et le roman aussi fonctionne à l'envers du film, c'est-à-dire que le film met en scène un monde surpeuplé, alors que le roman, c'est un monde déserté. Les humains se sont enfuis, ont quitté la Terre, et les gens, il y a très peu d'humains sur la planète.
Pour aller sur Mars, justement.
Et il y a très peu d'animaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une pluie nucléaire qui a détruit écologiquement la planète, et les animaux sont en voie de disparition. Et donc, les animaux valent des fortunes. Alors, Kadic n'est pas novateur par rapport au film, puisqu'il ne parle pas d'animaux génétiques, hein, dans le roman. Les animaux disparaissent, et tout simplement, on les collectionne. Et Deckard justement va s'acheter très cher, grâce à sa prime de tueur de réplicants, va s'acheter une chèvre noire à la fin
il en rêve pendant tout le livre, hein. Il en rêve.
À la fin, une réplicante justement va jeter la chèvre du haut de l'immeuble, va tuer la chèvre, preuve qu'elle n'a pas d'empathie pour la pauvre petite chèvre.
Alors, si tu veux bien, on va écouter cette scène, parce que je sais que tu en as fait une analyse filmique assez détaillée, plan par plan. Donc, on va voir ce que ça donne, juste le son de cette scène.
Next subject, Kowalski Leon, engineer waste disposal. File section, new employee, 6 days.
Calling Mr. Weber. Please
come in.
Sit down.
Care if I talk? I'm kind of nervous when I take tests.
Just please don't move.
Oh, sorry.
I already had an IQ test this year. I don't think I've ever had
one. Reaction time is a factor in this, so please pay attention. Now answer as quickly as you can.
Sure.
1187 at Unterwasser.
That's the hotel.
What?
Where I live.
Nice place?
Yeah, sure, I guess. Is that part of the test?
No. Just warming you up, that's all.
Huh. It's not fancy or anything.
You're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden...
Is this the test now?
Yes. You're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden you look...
What one?
What?
What desert?
Doesn't make any difference. What desert is completely hypothetical.
But how come I'd be there?
Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards
you. Tortoise? What's that?
You know what a turtle is?
Of course.
Same thing.
Never seen a turtle. But I understand what you mean.
You reach down, you flip the tortoise over on its back, Leon.
Do you make up these questions, Mr. Holden? Or do they write them down for you?
The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping.
What do you mean I'm not helping?
I mean you're not helping. Why is that, Leon? They're just questions, Leon. In answer to your query, they're written down for me. It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother?
My mother?
Yeah.
Let me tell you about my mother.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler de cette scène mythique?
Alors, cette scène est un monument. Alors souvent, dans les analyses qu'on fait dans les forums sur les films, on reste, je dirais, sur l'explicite, c'est-à-dire sur le texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un film, c'est 24 images par seconde, et c'est aussi une écriture très particulière, qui est l'écriture cinématographique. Et dans cette scène, il y a une manipulation. Il y a une manipulation subliminale faite par Ridley Scott, qui est absolument géniale. En fait, il faut que je vous explique déjà un truc très particulier, donc je vais vous gâcher tous vos films, hein, surtout les films américains à partir de maintenant. En cinéma, il y a une règle qui s'appelle la règle des 180 degrés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose une caméra, par exemple on filme, c'est un cas typique d'ailleurs, cette scène de Blade Runner, puisqu'on a deux personnes de part et d'autre d'une table qui discutent, à partir du moment où j'ai mis la caméra d'un côté de la table, dans les successions de champ contre champ entre les deux personnages, je ne dois pas passer de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que ça inverse la position des personnages à l'écran, c'est-à-dire je modifie la géographie, l'habitude qu'a le spectateur de voir Léon à gauche, Holden à droite. Si je passe la caméra de l'autre côté de la table dans un champ contre champ, Léon remplace Holden. Donc du coup, Ridley Scott va respecter cette règle-là. Hitchcock, la coutume dans ce type de découpage, alors c'est assez compliqué à expliquer, mais la plupart des films américains, des séries américaines, donc vous verrez, maintenant que je vous donne le secret, vous regarderez tous les films classiques américains. Les Français sont un peu plus bordéliques par rapport à ce niveau-là, mais les Américains sont ultra rigoureux sur la règle des 180 degrés.
Pourquoi est-ce que je ne suis pas étonné ?
Sont structurés de cette façon-là. On commence par un plan large qui décrit le lieu et la scène. Ensuite, on fait une série de champs contre champs, on dit externes, c'est-à-dire derrière l'épaule de chaque protagoniste, où on met en place les enjeux. Ensuite, on passe en très gros plan, c'est-à-dire en contre-champ interne, on se rapproche des protagonistes, c'est-à-dire le drame, on met en place le drame. Le drame apparaît, à ce moment-là, on fait ce qu'on veut. On peut faire un peu n'importe quoi, d'ailleurs, le drame a lieu. Et on revient systématiquement à un plan large qui décrit ce qui vient de se passer. Pratiquement tout le cinéma américain et commercial est structuré comme ça. Donc nous avons tous inconsciemment l'habitude, on commence à voir une scène au cinéma, à ce qu'elle soit, c'est une sorte de mélodie apparente, à ce qu'elle soit structurée comme ça. Alors maintenant, si vous regardez bien, je vous conseille de le faire, cette scène qui ouvre Blade Runner, qui est quand même, c'est osé, hein, d'ouvrir un film sur une scène statique de dialogue. Il est en contre-champ, il fait le plan large au début, il nous situe la scène avec une espèce de travelling qui nous met en scène l'événement. On situe les deux protagonistes. Ensuite, on a une série de champs contre-champs internes, assez larges, où ils discutent, on saisit le drame. Et tout d'un coup, On rechante toujours un terme, mais tout près du visage des protagonistes, tout près d'Holden, et Holden pose la question de la tortue. Et à ce moment-là, si vous écoutez bien la bande-son, c'est assez génial, il y a un chœur qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vaisseau spatial qui survole le bâtiment et qui fait « tong, 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 tong ». C'est-à-dire qu'il est en train de nous conditionner à un drame qui va arriver là. Pourquoi ? Parce qu'on est tous habitués, lorsqu'on arrive à ce moment-là, dans un film américain ou autre, au gros plan sur les personnages, à ce qu'un drame arrive à ce moment-là. Et alors, il y a un chœur qui résonne, les voix passent en réverbération, on est tout près du visage de Léon. Alors Léon, Holden dit « Que faites-vous avec la tortue ?» Et Léon hésite, ne répond pas. Et là, contre toute attente, il n'y a pas de drame. C'est-à-dire, on passe au plan large. Holden se rallonge un peu dans son fauteuil et dit « Mais ce sont juste des questions, Léon. C'est pas très important. On va passer à la suite. » Et nous, spectateurs, on fait pareil. C'est-à-dire que on est tellement habitués à ce que le drame ait eu lieu, là, on est passé au plan large. On se calme, on se repose dans notre fauteuil et on s'attend à passer à la scène suivante. Et c'est à ce moment-là que Léon, dans cette scène-là, tire sous la table. Le spectateur fait un bond dans son fauteuil. On est tous surpris. Et non seulement ça...
Holden aussi fait un bond dans son fauteuil.
Et non seulement ça, mais le plan suivant n'est pas justement le fameux plan large qui nous permet de savoir ce qui vient de se passer. Il ne nous le donne pas. C'est-à-dire le plan suivant, c'est un plan large en dehors de la ville sur la publicité de la Nippon sur les buildings. Et là, c'est le début de Blade Runner. Ridley Scott, grâce à sa maîtrise en fait, d'une écriture traditionnelle du cinéma américain, nous a surpris. C'est-à-dire, il construit le film de façon traditionnelle, mais il se sert de ce système-là pour en subliminal nous surprendre et nous faire ressentir l'impact et la surprise de l'impact de balle de Léon beaucoup plus fortement.
D'accord, mais attends, juste avant, c'est quand même... Il y a une petite scène qui est assez proche de 2001, une petite scène, une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma, où on voit un œil s'ouvrir sur une immense ville. Donc il y a d'abord une sorte de voyage qui nous mène jusqu'au lieu de l'interrogatoire. C'est finalement en fait la deuxième scène.
Tu as une ouverture, une très très belle ouverture, mais qui va effectivement, d'habitude, dans la plupart des films, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que tu as cette très belle scène d'introduction qui est effectivement grandiose, mais qui va nous amener à une scène statique. Alors beaucoup de films commerciaux américains vont nous amener, par la même démarche, de cette scène d'ouverture vers une scène d'action extrêmement violente, rapide, dynamique au niveau du montage. Alors que là, on s'emmerde un peu. A priori, on s'emmerde un peu, mais on s'emmerde pas justement. C'est ça qui est intéressant.
On s'emmerde pas longtemps.
C'est qu'il va passer son temps dans cette scène-là, alors que ce n'est pas une scène d'action, c'est une scène de dialogue, à nous perturber. En particulier, pour les spécialistes de cinéma, si vous regardez bien, il fait une série de champs contre champs sur le test de Voigtkampff dans l'axe caméra. C'est-à-dire qu'il alterne deux visions subjectives, celle de Holden et celle de Descartes. Et ça perturbe le spectateur. C'est-à-dire que quand on alterne des champs contre champs subjectifs, on ne sait plus où est l'espace. On a une perte de l'espace qui attire l'attention, qui réveille un peu le spectateur de façon artificielle. Et juste en aparté, si vous regardez bien le test de Voigtkampff à ce moment-là, vous verrez que dans les écrans du test de Voigtkampff, on a le monstre d'Alien qui est en train de se balader.
Et il y a une autre scène de test de Voigtkampff, parce que du coup, en fait, c'est presque la même histoire qui va être racontée juste après dans le film. Je ne sais pas, je crois que c'est 15 minutes après. C'est autour de Descartes de venir simplement demander à Tyrell qu'est-ce qui se passe. Et il se retrouve face à Rachel. Rachel Rosen, qui est donc un des personnages du livre et qui est aussi présente là. Et là, la scène est quand même très différente. Je ne sais pas si tu te souviens.
Alors, cette scène, ça sera un peu long de la découper parce qu'elle est magique. Si on l'analyse au niveau de l'écriture cinématographique, c'est-à-dire si on analyse la façon dont les caméras s'alternent dans cette scène-là, c'est un chef-d'œuvre. Mais là, ça serait très long de la décortiquer. Mais en fait, on a tout un jeu subliminal où Descartes va remplacer Rachel. Si vous refaites l'analyse, ce qu'il faut savoir, c'est que Ridley Scott est extrêmement attentif et les Américains, la plupart des réalisateurs américains font très très attention au changement d'axe de caméra dans les champ contre champ. Et donc là, le truc, c'est qu'il va faire une sorte de ballet où Descartes remplace Rachel dans son dialogue avec, comment elle s'appelle, avec Tyrell. Et c'est évidemment symbolique. Mais là, ça sera un peu long. Et en plus, à la radio, c'est difficile. Il faut voir les images.
Ah oui, c'est assez difficile. Mais dans les deux cas, ces scènes sont des moments de révélation que la personne qu'on a en face de soi n'est pas un être humain. Donc c'est des scènes qui sont extrêmement importante de découverte de l'inhumain, en fait. Et surtout dans le cas de Rachel, alors que cette personne a l'air non seulement très humaine et en plus très attirante. Donc c'est pour moi une scène très importante, alors que dans le cas de la première scène, donc quand on découvre que la personne est un robot, on est mort, en fait. Donc c'est les deux côtés du réplicant.
Tout à fait. Bah, dans le roman, cette scène est importante aussi, l'interview de Rachel par Descartes avec le test de Voigt-Kampff. Il est beaucoup plus concis et le moment dramatique est fort, c'est lorsque Descartes dit à Tyrell, elle ne sait pas. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce qui est troublant
parce
pour
qu'elle
Descartes...
Parce qu'elle ne sait pas qu'elle est un robot.
Voilà. Et dans le roman, c'est beaucoup plus, pas dilué, mais développé, cette scène-là. C'est que Descartes se fait avoir au départ. Il croit que Rachel est vraiment humaine. Et il refait le test. Il refait le test une deuxième fois dans le doute. Et en fait, dans le roman, il est manipulé par Rachel et Tyrell pour lui faire croire que Rachel, qu'il est capable. C'est-à-dire que, en fait, la stratégie de Tyrell, c'est de faire, de tromper Descartes, c'est-à-dire de prouver qu'il n'est pas capable de faire la différence entre un humain et un répliquant. Et donc, si Rachel était humaine, Descartes l'aurait identifiée comme réplicante et aurait pu la tuer. Et donc, à partir de là, ça invalidait la validité du test de Voigt-Kampff. En l'occurrence, dans le roman, Descartes ne se fait pas avoir parce qu'il découvre, et donc c'est d'ailleurs l'un des grands enjeux du film, c'est le réplicant qu'il ne sait pas, qu'il n'est un réplicant parce qu'il a une mémoire. Alors, c'est vraiment structurel d'ailleurs du film, parce qu'il a une mémoire implantée, hein, on lui a créé un passé, et c'est ce qui va permettre de générer aussi l'ambiguïté sur la réelle identité de Descartes, c'est-à-dire est-ce que Descartes n'est pas lui aussi un réplicant, dont la mémoire avec une mémoire artificielle.
Et il tombe donc amoureux de Rachel. On va écouter le thème de Love Theme de Blade Runner, qui est un magnifique thème.
Thank you.
Reagan, j'ai plein de trucs à raconter.
Alors, j'aimerais te poser une question, après cette chanson qui nous met dans l'ambiance, sur la différence entre le film et le livre. Il y a notamment en fait, une religion qui est présente dans le livre qui a été supprimée du film.
Tout à fait. Il y a, dans le roman, en fait, il y a le mercérisme, c'est-à-dire que les gens ont chez eux un dispositif très particulier, qui est d'ailleurs un dispositif... On se demande comment ça marche, mais en gros, on a deux poignées sur lesquelles on prend les deux poignées, on a un écran, et lorsqu'on tient les deux poignées, on se retrouve à l'intérieur d'une identité, d'un personnage. On vit la vie d'un personnage, et ce personnage est en train de gravir une montagne. C'est-à-dire, c'est toujours la même scène d'un personnage qui interminablement gravit une montagne, et en gravissant cette montagne, il reçoit des pierres. Et on ressent, on a les pierres qui nous tombent dessus, et donc à travers cette scène-là, moi je pense qu'il y a très clairement de la part de Philippe K. Dick une métaphore chrétienne, hein, une métaphore où il...
Il était converti, hein, tardif, mais converti.
Je ne sais pas. En fait, ça, je ne peux pas te répondre. C'est un grand débat. Le rapport, c'est un des grands, comment on va dire, un des grands hydres de mer du milieu de la science-fiction. Mmh. Quelle était la relation mystique de
Philippe
K. Dick?
Il était plutôt gnostique, en fait, plutôt fasciné par les premiers chrétiens. Il pensait qu'on était tous des premiers chrétiens, en fait, si on creuse.
Je pourrais pas en parler. Par contre, c'est clair que dans les androïdes reptiles de Mouton électrique, il met en son débat, ce qu'il est en train de dire clairement dans le roman, c'est qu'il ne faut pas confondre les machines avec les humains. Et donc, ça veut dire qu'il investit, en tout cas dans le roman, les humains d'une dimension particulière que les machines ne pourront jamais atteindre. Et le mercérisme, donc ce personnage mercère qui est en train de gravir la montagne et qui, à mon avis, est vraiment une image du Christ, semble induire qu'il y a de la part de Philippe K. Dick une vision métaphysique de l'humain proche de la notion de divin, c'est-à-dire de l'humain aurait une dimension, aurait quelque chose en lui qui est de l'ordre. Alors K. Dick le relie à l'empathie, à notre capacité à pouvoir communier littéralement, puisque Mercer, en fait, il y a une communion des humains à travers Mercer, auquel
ils se connectent en même temps.
Voilà, c'est ça. Tous les humains se retrouvent connectés sur Mercer en même temps, donc il y a un phénomène de communion. Et les androïdes y sont particulièrement allergiques, hein, c'est-à-dire que les androïdes n'aiment pas du tout cette capacité qu'ont les humains de pouvoir communier à travers Mercer. Donc c'est une métaphore, je dirais, christique et religieuse, hein, clairement, laisse induire effectivement qu'il y a en tout cas une posture de type métaphysique chrétienne de la part de K. Dick dans les androïdes reptiles de Mouton électrique, qui a été évacué dans le film. Le film ayant aussi inversé, mais j'ai une réflexion sur le fait de l'inversion qu'a fait Ridley Scott, d'ailleurs, sur le fait que plus on avance dans le film, plus les androïdes deviennent humains, ont un côté humain. C'est parce qu'en fait, ils pouvaient pas, je pense, faire le contraire, parce que quelque part, ce film, comme tous les films de science-fiction, sont des métaphores. Vous savez, les extraterrestres étaient les Russes à une époque, on se servait des extraterrestres pour décrire les Russes. Là, je pense que c'est un film qui est un film, je dirais, prosélyte de l'intégration sociale, c'est-à-dire que quelque part les réplicants représentent les minorités sociales. Or, on est à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs aux États-Unis, dans un souci précisément de lien, de créer du lien social et de favoriser l'intégration sociale, en particulier vis-à-vis de l'ensemble des minorités ethniques qui deviennent d'ailleurs des majorités ethniques aux États-Unis. Et donc, s'il avait inversé le propos, c'est-à-dire que s'il avait fait des réplicants vraiment très méchants, vraiment inhumains à la fin, il pouvait y avoir une interprétation non politiquement correcte ou un message non politiquement correct qui passait dans Blade Runner.
Parce que là, ils cherchent uniquement à survivre, parce que les réplicants, ils sont parfaits. Il y a un petit côté surhomme aussi, hein, le Rutger Hauer avec les cheveux blancs, les yeux bleus, mais ils ont malheureusement une limite de vie de 4 ans. Mmh. 4 ans, c'est ça. Donc en fait, ils cherchent uniquement à survivre. Pour ça, ils essaient de trouver leur créateur pour être modifiés, pour être encore plus comme des humains, voire même devenir immortels. Donc c'est pas de leur faute qu'ils sont si méchants. C'est des victimes.
Absolument. Dans le film, ils sont effectivement victimisés par le pouvoir humain, par la domination humaine. Hein. Ce sont des esclaves. Hein. De toute façon, ils relient avec un très vieux mythe de l'intelligence artificielle et des créatures artificielles. Hein. C'est-à-dire, les robots sont des esclaves dans notre imaginaire collectif qui vont justement travailler pour nous. Et d'ailleurs, une partie du mythe communiste était habitée par cette notion de robot qui allait, on allait aller vers une société future où on n'avait pas besoin de travailler ni de payer pour se nourrir ou pour se loger. Et c'était les machines qui allaient travailler pour nous.
C'est ce qu'on retrouve chez Raël.
Alors, je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien Raël.
Il a un mouvement politique qui s'appelle le paradisme, dans lequel il dit que les robots vont libérer l'être humain. du travail.
Alors, il y a pas que
Raël communiste.
Il y a pas que Raël. Théophile Gautier aussi. Il y a un très beau texte, très belle lettre de Théophile Gautier où il dit, et il s'est pas trop trompé. Il dit, d'ici un siècle, nous aurons des hommes d'État à ressort et des cochers à vapeur. Et en fait, siècle plus tard,
c'est une belle prédiction.
Les premiers robots. Et il dit, en plus, il précise, et le républicain pourra aller vaquer à ses occupations pendant que les robots, les autres. Alors, il appelle ça des îlots à vapeur. D'ailleurs, le mot robot n'existe pas. Les îlots à vapeur travaillent pour nous. Alors, il s'est à peine trompé, c'est-à-dire qu'effectivement, un siècle plus tard, les premiers robots apparaissent chez General Motors. Simplement, c'est pas nous qui profitons, qui allons vaquer à nos occupations. Les robots travaillent pas pour nous, mais pour les propriétaires des grosses usines et grosses industries. Donc il était un tout petit peu à côté de la plaque, mais pas tant que ça.
Alors reparlons du mercérisme. Ça y est, j'ai fait la gaffe que je faisais tout le temps off. reparlons du mercérisme, parce que le mercérisme, on découvre dans le livre... excusez-moi, un tout petit spoiler, mais lisez le livre, il a beaucoup d'autres qualités que les révélations. C'est totalement du bidon. En fait, Mercer est un acteur qui a été casté, et en fait, je crois même, si ma mémoire est bonne, que c'est un SDF qui a été casté, choisi pour interpréter le Christ dans une grande représentation fausse. En fait, Kadic critique là aussi l'illusion, l'absence de réalité.
Oui, alors, c'est ça qui est génial chez Kadic. Kadic est très, très impressionnant à ce niveau-là. C'est que, justement... ce qui met en scène dans le roman, qui est fascinant, c'est que même lorsqu'on découvre que Mercer est bidon, la création de Mercer, c'est-à-dire que le système, le dispositif du mercérisme qui est mis en place et que pratiquent les humains est pertinent, c'est-à-dire lui fonctionne. Et en fait, il est en train de dire, et même si le Christ n'a pas existé, on s'en fout, de toute façon ça fonctionne. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Et d'autre part, Kadic est très très habité par la question du réel, effectivement, dans qu'est-ce que c'est le réel, quelles sont les limites entre justement l'imaginaire et le réel. Et il a une formule extraordinaire que j'adore. Parce que en fait, ma première installation d'art vidéo était inspirée de son roman Ubique, et je l'ai faite en 1982. Et il pose la question de gens qui vivent dans un monde virtuel et qui ne voient plus la différence entre le virtuel et le réel. Et il a une formule dans Siva qui est magnifique, qui est la réalité, c'est ce qui persiste même lorsqu'on a cessé d'y croire. Et cette phrase est géniale parce qu'elle est souvent prise d'ailleurs. Pas dans son bon sens. Si on la sort de son contexte, elle semble nous dire, elle semble résoudre la question de la vie est une illusion. C'est-à-dire que on a souvent cette spéculation de se dire mais tout ce que je vois n'existe pas. La réalité est ailleurs, la réalité est autre. Et la réponse rationnelle pourrait être cette phrase de Kadic qui est de dire oui, mais même si la vie peut nous paraître une illusion, la réalité, c'est ce qui persiste. Même lorsqu'on a cessé d'y croire. Donc là, on se dit, bah oui, voilà, ça c'est la réponse. Sauf que lorsqu'on la resitue dans le roman de Siva, Philippe Kadic la met dans la bouche de quelqu'un de très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, le héros est en train de discuter avec son psychiatre et le héros a son ami à côté de lui. Et régulièrement, il s'interrompt de la discussion avec le psychiatre et parle avec cet ami à côté. Et le psychiatre, à un moment, lui dit, mais vous savez que votre ami là à côté de vous n'existe pas, il n'existe que pour vous. Et à ce moment-là, le héros dit « Oui, mais la réalité, c'est ce qui persiste, même lorsqu'on a cessé d'y croire. » Et là, du coup, le sens de la phrase est complètement inversé.
Surtout que son ami... Alors, le héros, tu parles de Horst Lover Fatt.
C'est ça.
Son ami est un écrivain de science-fiction du nom de Philippe Kadic. Et Horst Lover Fatt, Horst Lover, ça veut dire Philippe en latin, j'aime les chevaux, l'ami de celui qui aime les chevaux. Et voilà, donc c'est finalement en fait une division de la personnalité. Ce qui est incroyable dans Siva, c'est qu'au début, il explique qu'il est schizophrène, puis on l'oublie, et puis on s'en rappelle au fur et à mesure qu'en fait, il y a deux personnages qui ne sont qu'un. C'est absolument incroyable. Et on pourrait faire le lien avec Descartes, parce que. Est-ce que c'est vraiment un réplicant et à quoi est-ce qu'on le discerne? Parce que le mysticisme, s'il est très présent dans le livre, on le ressent aussi dans le film, notamment par le passage de la licorne qui a beaucoup fait écrire au moment dans le film. Il y a le héros qui est devant un piano et on ne sait pas pourquoi. Il y a Vangelis qui s'endort sur son synthétiseur et il y a une licorne qui apparaît. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben ça, c'est la même ambiguïté qui est déjà aussi présente dans le roman. Cette scène-là est un peu similaire dans le roman. C'est lorsque Rachel demande. Alors, c'est très important. Il y a cette scène, on a Descartes qui est devant son piano. Et là, il y a un long travelling sur toutes les photos. Alors, c'est très important parce que pour les réplicants, les photos sont importantes. Léon collectionne les photos. Les photos, c'est la trace de leur mémoire. Ils ont un rapport assez particulier avec les photos parce que les photos seraient la preuve que leur mémoire n'est pas fausse, serait la preuve.
Mais j'avais jamais pensé à ça. Quand il essaie de revenir chez lui pour reprendre les photos, et Roy lui dit « Did you get your photos ?»
Voilà.
Elles sont précieuses.
Mais oui, les photos jouent un rôle très important. Et Rachel, au moment de... Justement, on est dans cette scène où Descartes est fatigué, il est devant son piano, on a ce long travelling sur les photos, et Rachel sort de la salle de bain et dit « Est-ce que vous avez testé le test de Voigt-Kampff sur vous-même ?» Et Descartes ne répond pas, il s'endort et il rêve de la licorne. Et la licorne, on la retrouve à la fin, c'est-à-dire c'est Gaff qui laisse un origami sur le pas de porte d'une licorne. Ça veut dire que Gaff connaît les rêves de Descartes. Donc à partir de ce moment-là, s'il connaît les rêves de Descartes, il sait que Descartes, il a eu accès à la mémoire de Descartes. Donc Descartes a une mémoire implantée. Donc Descartes est un réplicant. Alors ce qui est important, c'est que ce n'est pas obligé de regarder le film avec ce sens-là. C'est la grande force de Ridley Scott à ce niveau-là, c'est d'avoir créé un film avec plusieurs niveaux de lecture. Et on peut choisir, on a le droit de choisir de ne pas voir en Descartes un réplicant. Et si on a envie, on peut, grâce à tous ces indices. Donc c'est un film, je dirais, déjà, comment on va dire, interactif. Hein, c'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas linéaire, enfin qui est linéaire, mais qui peut avoir deux interprétations possibles. Et ça enrichit énormément le film. Et il y a un autre niveau dont on va parler, je pense.
Exactement, on va en parler maintenant. Le dernier niveau, c'est le niveau des métaphores sexuelles. On va écouter One More Kiss Dear, pareil, de la musique de Blade Runner.
One more kiss dear, one more sigh, only this dear is goodbye. From the trees tumble to the ground and die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun dear up on high will return. I will treasure until I die, like the sun dear upon high will return dear to the sky. And we'll banish the
Alors le dernier thème qu'on va aborder sur Blade Runner, ce sera les métaphores sexuelles. Et c'est toi qui m'as suggéré cette idée, Yann.
Oui, absolument, parce que c'est un sujet qui me passionne parce que c'est un des premiers niveaux le plus facilement interprétable et analysable de jeu à la fois potache et à la fois très élaboré de structuration de messages subliminaux dans les œuvres d'art en général. Et en fait, il y a un jeu très volontaire de la part de Ridley Scott, c'est-à-dire que évidemment on peut tous projeter ce qu'on veut comme on veut sur les films et c'est notre liberté. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on sent qu'un auteur, un artiste a très volontairement maîtrisé des jeux de double narration subliminaux qui peuvent être des métaphores sexuelles, ça peut être aussi des métaphores faciales. Il y a tout un répertoire de jeux comme ça qu'on peut exploiter.
Des métaphores faciales ?
Les métaphores faciales. Par exemple, dans les films d'horreur, on utilise beaucoup les métaphores faciales, c'est-à-dire que la maison va avoir deux yeux, une bouche.
Ah, voilà. Evil Dead.
Voilà, c'est des métaphores faciales. Elles sont très courantes et très faciles à identifier. Et les métaphores sexuelles sont les plus faciles à identifier, sauf que dans Blade Runner, elles sont complexes. Et c'est très intéressant parce que ça enrichit énormément le film. Alors la métaphore qui est pour moi la plus spectaculaire, c'est l'analogie œil égale œuf égale testicule. C'est-à-dire ça, c'est moi qui dis
testicule. Alors, raconte-nous un peu quelles sont les occurrences déjà des œufs et des yeux et des testicules. Quelles sont les occurrences des testicules
Les yeux et les œufs jouent un rôle très important au niveau formel. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'un film, c'est 24 images par seconde et que le travail de l'image, très précisément, est extrêmement maîtrisé chez, entre autres, les grands réalisateurs américains depuis Kubrick, en passant par Ridley Scott et d'autres. Et donc, quand il y a des images dans le film, quand il fait des gros plans sur certaines choses, c'est jamais par hasard. C'est exactement comme les grands peintres de la Renaissance, comme Velázquez. Hein, les compositions ne sont jamais là par hasard. Et donc, les yeux, on commence avec ce très gros plan d'un œil au début du film, hein, sur lequel se reflète la ville. Alors, il faut savoir qu'un œil, ce n'est pas n'importe quoi. Hein, c'est un sphincter. C'est un sphincter dans un vagin, au niveau formel.
Bon, parles de l'iris en fait. Voilà.
Absolument.
D'accord.
Absolument.
Je laisse l'imagination des auditeurs comprendre.
Voilà. Et l'œil revient régulièrement. Et en particulier, si vous regardez bien le film, faites attention aussi. Alors, l'œil intervient au moment avec le petit chinois qui fabrique des yeux. Hein, c'est-à-dire,
il fabrique les yeux des réplicants.
Et les fameux yeux des réplicants sont mis à réfrigérer dans un conteneur qui ressemble exactement au conteneur des œufs dans la scène qui va suivre avec Pris et Sébastien. Et alors, les œufs apparaissent dans cette scène. Alors, je vous la raconte parce qu'elle est importante, telle qu'elle se passe. Et si vous regardez la scène, ça va devenir évident. Comment elle s'appelle, Pris, qui est une femme guerrière. On aurait pu parler des femmes guerrières aussi. Mais enfin, Pris, qui est une femme guerrière, qui est une réplicante, qui est en train d'essayer de séduire Sébastien. Sébastien, qui est un fabricant d'automates. Déjà, vous verrez que dans les positions des automates, il y a beaucoup de connotations sexuelles de type sadomasochiste, c'est-à-dire les vêtements de Pris, la façon dont ils sont habillés, les personnages. Il y a des références à l'érotisme fétichiste. Et donc, Pris drague Sébastien et arrive Rutger Hauer, c'est-à-dire Roy Batty. Et Roy Batty dit à Pris immédiatement, au moment où il arrive, alors Sébastien évidemment est contrarié puisqu'il est dans une relation de séduction avec Pris, et arrive une tierce personne. Et Roy dit à Pris, Léon est mort. Et Pris, à ce moment-là, s'exclame, nous sommes idiots, nous allons tous mourir. Et à ce moment-là, Roy sourit et dit, nous ne mourrons pas. Et Ridley Scott fait un très gros plan sur des œufs en train de bouillir dans une bouilloire. Ce plan-là est complètement rapporté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient cette bouilloire. On ne l'a jamais vue encore jusqu'à maintenant. Et tout d'un coup, on voit apparaître une bouilloire avec des œufs qui bouent juste au moment où Roy dit « Nous ne mourrons pas ». Donc ce plan est étonnant. Pourquoi y a-t-il ce plan-là ? Et quelques instants plus tard, dans le film, on va revoir à nouveau cette bouilloire. Sébastien s'adresse à Roy et il a reconnu les réplicants et il dit montrez-moi quelque chose et Roy lui dit nous ne sommes pas des choses Sébastien. Pris dit je pense donc je suis. Très important, il dit je pense donc je suis. Et là Roy dit c'est vrai, montre-lui. C'est énorme, c'est-à-dire imaginez que vous êtes réalisateur, vous allez devoir faire la démonstration du je pense donc je suis. C'est un vrai enjeu. Et là que fait Pris ? Elle fait son fameux salto arrière. Et là, elle plonge la main dans cette bouilloire remplie d'œufs brûlants. Elle prend l'œuf brûlant et le jette à Sébastien qui se brûle avec. C'est la démonstration du « je pense que je suis ». C'est étrange comme démonstration. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Quel est l'enjeu des réplicants ? Tiens, d'ailleurs, quel est l'enjeu des réplicants ? C'est de vivre plus longtemps.
C'est de vivre plus longtemps et peut-être aussi d'être considéré comme humain. Ou alors voilà. Peut-être supérieur aussi, d'humilier un peu l'humain, de se venger.
Alors, ils veulent vivre plus longtemps et Ridley Scott insiste pendant tout le film sur la relation charnelle entre Pris et Roy Batty. En fait, ce que veulent les réplicants, ce que veulent en particulier Pris et Roy, c'est avoir des enfants. Mais évidemment, c'est ridicule. C'est-à-dire, s'il avait mis Pris en train de dire à Roy, chérie, je veux un bébé, on était tous morts de rire. Donc, il va introduire cette quête du bébé de Pris à travers un jeu de métaphores, ce qui enrichit énormément le film, à travers la métaphore de l'œuf. L'œuf, c'est l'enfant, c'est la procréation. Et une fois qu'on a la clé, Pris est en train de jeter l'œuf de l'enfant qu'elle désire, l'œuf brûlant, hein, qui dans les mains de Sébastien. Et si vous regardez la scène, vous continuez à regarder la scène, vous verrez que tout de suite après, Sébastien se retrouve enfermé entre les jambes de Pris, avec Roy qui se penche sur lui, qui a coiffé deux gros yeux énormes, bien couillus, si je me permets de dire, et on termine la scène avec, à nouveau, ce gros plan sur les œufs en train de bouillir, qui n'est pas du tout là par hasard. Donc il y a ces plans-là jouent bien un rôle structurel au niveau de la narration. Et évidemment, là, une fois qu'on a la clé de la métaphore, on comprend très bien ce qui se passe lorsque Roy, quelques temps plus tard, va écraser les yeux, hein, les yeux de son créateur, les yeux du père.
Il lui rentre l'épouse dans les orbites. Dans les donc il y a une belle pénétration de pouce.
Et alors, ce n'est pas intéressant. Évidemment, ça tue un peu le film une fois qu'on a la clé. Mais c'est justement ces jeux-là ne sont pas faits pour être justement explicites. Ils sont faits pour venir rajouter un deuxième message complexe qui vient se rajouter au premier message. Et c'est ce qui fait que Blade Runner, je pense, ce qui fait la grande force de Blade Runner, c'est que c'est un film justement. J'ai tendance à dire, l'art, c'est du traitement de l'information. C'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Et donc Blade Runner est un film qui a marqué des tas de générations parce qu'il a plusieurs couches informationnelles empilées les unes par-dessus les autres, dont des couches qui ne sont pas explicites mais que notre esprit perçoit. C'est-à-dire, même si notre conscient ne fait attention qu'à l'histoire principale, notre, je dirais, subconscience et notre perception intuitive perçoit les messages qui sont ajoutés en parallèle et qui sont, et c'est surtout ça qui est extraordinaire chez Ridley Scott, qui sont maîtrisés. C'est-à-dire, ils ne sont pas là du tout par hasard.
D'accord. Et alors, bon, bah là, on n'a plus grand-chose à dire. J'ai envie qu'on écoute, en fait, Roy Batty mourir avant de conclure.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore. I watched sea beams glitter in the dark near 10,000 feet. All those moments will be lost in time, like tears.
Alors c'est la scène culte. Moi j'en ai des frissons à chaque fois que je l'écoute. Est-ce qu'on pourrait terminer en envoyant un petit message à Philippe Manœuvre ? Je ne sais pas si tu sais. Moi je suis peut-être un peu hargneux, mais je sais qu'à la sortie de Blade Runner, Philippe Manœuvre, qui écrivait à l'époque chez Metal Hurlant, qui est quand même un magnifique magazine. Moi j'ai pas pu vraiment le lire dans ces grandes années. Il a écrit quand même, Philippe K. Dick, qui était mort quelques jours avant la sortie du film, que à cause de ce film c'était une façon de tuer Philippe K. Dick une deuxième fois, tellement c'était nul. Donc voilà, Philippe, si tu nous écoutes, je t'en veux énormément. C'est impardonnable. Voilà, c'est tout ce que je voulais envoyer comme message. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu science-fiction ? Parce que tant que je t'ai sous la main, et vu qu'on va avoir plein de gens de fans de SF, est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, je vais te poser des questions bêtes, c'est quoi ton top 3 ? Top 3 des films, top 3 des livres ? J'adore les questions bêtes. Ah, toujours la même
cours,
réaction.
Tu me prends de court parce que j'ai.
C'est toujours la même réaction.
J'ai pas de, J'ai, bon, j'ai des films que j'ai beaucoup analysés et étudiés, comme Alien 1, par exemple.
Ah, on pourra refaire une émission, alors.
Il y a évidemment... non, c'est très difficile de répondre, parce qu'il y a des films récents qui sont vraiment géniaux. Et là, si je commence à lister, je vais...
Mais vas-y,
si tu veux parler de science-fiction...
T'as plus de 3, si tu veux.
Si tu veux parler de science-fiction, par contre, moi, j'ai envie de dire un truc sur la science-fiction.
Alors, vas-y.
Il faut inverser le concept, la compréhension qu'on a de ce qu'est la science-fiction. C'est-à-dire, la science-fiction, ce n'est pas des romans, ce n'est pas des illustrations, ce n'est pas des films. La science-fiction, c'est une entité, c'est-à-dire c'est un être noosphérique, qui se sert de nous et des masses médias pour se propager et se démultiplier. Et en fait, si on revoit la science-fiction telle qu'elle est, sous cette forme-là, sous cette forme d'entité noosphérique, on s'aperçoit qu'elle s'est d'abord servie des masses médias les plus puissants, qui étaient la littérature à son époque, les pulps, et que dès que la télévision, le cinéma sont apparus, elle a migré, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée pour utiliser ces médias populaires pour se transmettre et se propager. Et actuellement, la science-fiction, très très loin d'être quelque chose de minoritaire, de minime, est un des vecteurs principaux de création artistique de notre époque, et en particulier de création immersive. On la retrouve dans les jeux vidéo, on la retrouve dans la publicité, on la retrouve dans le cinéma, dans la télévision, elle est omniprésente partout. Et alors qu'est-ce que c'est la science-fiction ? Bah, c'est la métaphore de nos capacités à survivre, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à l'humain de survivre ? C'est notre capacité, c'est le traitement de l'information d'un point de vue cybernétique, c'est notre capacité à imaginer le futur en fonction de ce qu'on sait du passé. C'est-à-dire à chaque instant, notre cerveau, pour assurer notre survie, parce que nous sommes des entités extrêmement fragiles par rapport aux autres espèces, nous devons anticiper toutes les merdes qui peuvent nous tomber dessus. Et donc, notre cerveau spécule en permanence des futurs proches comme des futurs extrêmement lointains. Et la science-fiction est l'émanation, l'expression artistique, le mythe qui illustre ou qui métaphorise cette capacité cognitive propre à l'humanité.
Eh ben merci beaucoup Yann Mine, c'était vraiment passionnant et c'était intéressant d'entendre des opinions nouvelles sur ce film et sur Philip K. Dick. En tout cas, on est très content d'avoir rendu cet hommage parce que cette année, c'est le 30e anniversaire de la mort du maître du Haut Château. Donc on lui rend cet hommage. Je te dis bonsoir Jessica.
Bonsoir à vous.
Et je vous dis à la semaine prochaine et figurez-vous qu'on va peut-être parler de Star Trek.